les sentiers du monde. Une émission proposée par Nadia et Kadri Aga.
Réalisation Medjid Fares. Bonsoir Kadri Aga.
Bonsoir Nadia.
Et bonsoir à mes auditeurs.
Oui, bonsoir à tous.
Après cette, on peut dire longue ou courte absence?
Longue, je suppose, longue. Parce que, oui, vous savez, l'habitude de venir et puis de s'adresser comme ça à toute une masse d'auditeurs, enfin une masse, je suis présomptueux, mais disons, il y a quand même quelques personnes qui nous écoutent. Et puis il y a eu ce vide, ça fait quelque chose, ça fait quelque chose.
Eh bien, nous allons essayer de combler ce vide. Hein?
Ben oui, on va essayer de renouer.
De renouer, donc.
De faire pour le mieux.
Oui. Alors.
Mais vous, il me semble, je m'excuse, enfin je vous prie de m'excuser, mm-hmm. Il me semble que vous avez pris beaucoup de tonus. Vous avez l'air
beaucoup,
en forme.
Beaucoup, c'est trop, mais quand même un certain tonus, oui, parce que je me suis bien reposée. Bon, il faut dire, comme tout le monde, après une année de travail, j'en avais besoin, et je répète comme oui. Tout le monde. Et j'ai bien mangé et je me suis promenée. Alors c'était très relax.
Où ça, en Algérie?
Non, mes vacances ne sont pas passées en Algérie parce que je suis allée rendre visite à un parent qui travaille outre-Méditerranée.
En France?
En France, voilà, dans l'est de la France, et pour être plus précise, à côté de Montbéliard.
Sochaux.
Sochaux, exactement. Alors, Sochaux, c'est Montbéliard, Sochaux et les alentours très industrialisés, comme
oui,
vous
parce
savez.
Que c'est pas tellement gai comme panorama.
Non, non, ce n'est pas gai du tout.
Oui, Sochaux, c'est surtout, c'est industrieux, enfin, industriel.
Oui, c'est ça.
C'est surtout des voitures.
Oui,
une grande marque de voitures très appréciée par les Algériens, une voiture française.
Oui, oui, oui. Et vous voyez que je ne suis pas bronzée du tout.
Oui, ben, c'est été difficile dans ce secteur.
Et il m'est même arrivé quelquefois de mettre un gros pullover. Et surtout le soir, il est difficile de rester en robe légère. Le soir, il n'en est pas question. Sauf peut-être quelques jours, enfin quelques nuits particulières.
Oui, et puis le jour, il fait aussi assez humide.
Oui, oui.
Puis avec les nuées des usines et tout ça.
Et c'est bizarre parce qu'un jour, il fait soleil, et le lendemain, il fait très sombre et il fait froid, et le surlendemain, c'est l'imperméable qu'il faut, il pleut. Mais je vous dirais que je ne suis pas restée à Montbéliard. Enfin, nous avons rayonné.
Heureusement.
Disons, à 200 km à la ronde, quoi.
Vous avez fait les Vosges.
Oui, les Vosges, un peu de la Meurthe-et-Moselle,
oui.
Un peu de Haute-Saône. Montbéliard, c'est dans le Doubs.
Le Doubs, oui.
Aussi, nous nous sommes promenés dans ce département.
Il y a de beaux endroits dans le Doubs. Il y a des régions.
Oui, il y a Besançon, par exemple.
Ah, Besançon. Besançon est une très belle ville.
Ville ancienne.
Oui, c'est une ville ancienne et c'est une ville qui a quand même un certain charme, un passé. C'est une ville qui, il faut le rappeler, a été l'ancienne capitale de la Franche-Comté.
Oui, oui.
La Franche-Comté. Vous savez, bon, elle est sur le Doubs aussi.
Oui, hein, oui,
sur
oui, le Doubs. C'est cela. Mais, et puis, étant ville très ancienne, c'est quand même une ville un peu. Bien sûr, il y a la ville nouvelle comme partout.
Oui, bien sûr.
Il y a les HLM et autres, mais il y a quand même l'ancien Besançon. Bien sûr, il y a les constructions modernes comme partout, mais quand on garde enfin une certaine idée de ce qu'a été Besançon.
Oui, et surtout le Besançon historique. Besançon historique, vous avez parlé d'ancien Besançon. Il y a dans la vieille ville beaucoup de bâtiments de cette époque, 17e siècle, qui a été une époque déterminante pour la Franche-Comté et notamment pour Besançon. Savez-vous que la Franche-Comté n'est devenue totalement française qu'avec, on appelle ça le traité de Nimègue en 1647, je crois, ou 77, je n'ai pas. C'était avec Louis XIV. Et c'est d'ailleurs depuis ce moment-là qu'il y a eu, je ne sais pas si vous avez remarqué, les fortifications au Vauban.
Oui.
Pourquoi les fortifications au Vauban? Savez-vous que Vauban a fait des fortifications
un peu partout,
autour de toutes les frontières françaises. Vous avez au nord, ça allait, enfin ce qu'on appelait à l'époque la France du temps de Louis XIV. Au nord, ça allait sur une partie de la Belgique, Charleroi, Mons. Et sur toute la frontière est. Et vous avez des villes, mais surtout cette ville de Franche-Comté, Besançon, qui était une ville très disputée du temps, dans l'histoire.
Oui, parce qu'elle a été une ville de garnison durant pas mal de temps.
Ça a été une ville de garnison après, mais avant, il faut rappeler, Franche-Comté vient de zone franche, comté franc, c'est devenu un comté franc. Il faudrait vous rappeler que c'était une place forte, ça a toujours été une place forte, et notamment depuis les Romains. Donc, si vous voulez, l'Antiquité romaine, depuis les Romains, c'est une zone de passage. C'est une zone de passage entre, Besançon n'est pas loin de la partie mosellane allemande. Les Allemands, la France d'un côté, le Luxembourg un peu plus haut, et l'Italie au sud, c'était une zone de passage, une zone dite stratégique. Sur cette partie jurassienne, était une espèce de couloir pour toutes sortes d'envahisseurs. Et après les Romains, vous avez eu les Germains qui l'ont occupé à plusieurs reprises. Et puis c'est devenu, ça a été aussi la Bourgogne jurane. C'était une partie l'ex-Bourgogne, le duc de Bourgogne avait inclus Besançon dans ses territoires. Et puis, il y a une scission, surtout Charles le Téméraire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Charles le Téméraire. Charles le Téméraire qui a repris, son autorité sur cette région. Et elle a été occupée par les Autrichiens. Et les Prussiens, donc les Autrichiens, et aussi par les Espagnols. Je dis les Autrichiens, donc les Prussiens, non, pas forcément, mais c'est parce qu'il y avait une alliance austro-prussienne, puis les Espagnols, jusqu'à la conquête par Louis XIV, avec le traité de Nimègue, ou la paix de Nimègue, qui était en 1678, je m'en souviens plus. Et ce qu'il faut surtout dire de cette ville, c'est que les gens, du fait même qu'ils appartiennent à cette zone de flux, géographiquement, donc une zone de passage, les gens ont une espèce de liberté. Ce sont des francs-tireurs, puisqu'ils appartiennent à cette Franche-Comté, ce sont des francs-tireurs. Et ça s'est même traduit par les personnages célèbres qui y sont nés. Je ne citerai entre autres que Victor Hugo, qui est né à Besançon. C'est un natif de Besançon.
Vous savez, moi, en ce qui concerne mes vacances, je n'ai qu'une vue d'ensemble de la région.
Hein,
bien sûr, parce que, de toute façon, je ne suis pas allée au fond des choses. Oui. J'ai vu superficiellement.
Non, c'est-à-dire que c'est une précision qu'on pourrait apporter. Peut-être.
Mais qui compte.
Oui. Victor Hugo est né à Besançon et ça donnait... Et vous savez pourquoi j'insiste sur la chose? Parce qu'il y a un déterminisme géographique. Les sociologues le prennent en considération. Vous avez, et ça se traduit au niveau des natifs de cette ville. Il y a eu Victor Hugo, qui, il faut vous le dire, s'est toujours opposé d'une certaine manière au pouvoir, à l'autorité de Napoléon. Napoléon III, souvenez-vous, le fameux Napoléon le Petit et la réponse cinglante de Napoléon III qui disait Victor Hugo le Grand. Oui, effectivement, enfin, c'est un hommage qu'il lui rendait. Bon, il y a eu ce Victor Hugo qui s'est exilé et tout, qui est parti donc dans les îles anglaises à Guernesey, Jersey. Bon. Il y a eu aussi Proudhon, c'est la ville qui a donné naissance à Proudhon qui était le théoricien socialiste, philosophe, qui est le père des associations mutualistes. C'est lui l'inventeur de la mutuelle, de ce qu'on appelle les mutuelles. Et il y a eu aussi, c'était la ville de Fourier. Alors Charles Fourier, qui était le, qui a créé l'école phalanstérienne, le philosophe, le phalanstère, lui préconisait, enfin, sa théorie sociale, c'était un organisme social qui devait se moduler, ou se modeler plutôt, selon les passions des êtres et des individus. Chacun devant travailler, donc, dans une espèce de phalanstère, hein, selon ses goûts. Donc, et trouver donc l'organisation, c'est un peu le retour à la nature, mais une nature plus organisée, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus organisé. C'est la liberté, c'est aussi encore une forme de liberté. Il y a eu Nodier, Charles Nodier, qui est aussi natif de Besançon, et qui était lui un philosophe, et qui est surtout connu pour ses fameux contes. Des contes, il écrit beaucoup de contes, surtout le plus célèbre était Jean Sbogard. Moi je me souviens quand j'étais petit à l'école primaire, on nous lisait Jean Sbogard de Nodier. Et c'était très beau, Sbogard, c'est justement un personnage qui était un franc-tireur, un frondeur.
Oui, justement, je ne suis pas du tout surprise que ces gens-là soient nés à Besançon parce que il représente exactement le bisontin, c'est comme ça qu'on appelle l'habitant de Besançon. Oui. L'habitant a l'air solide, stable, comme sa ville, quoi.
Exactement, exactement. Et en plus, il y tient à sa ville. Il y tient beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça a développé en quelque sorte un comportement atavique. Les gens ont toujours défendu cette place forte.
Oui, oui.
Et plus ils l'ont défendu de par l'histoire, si vous voulez, depuis que vos ancêtres ils vous ont inculqué cette idée de vous attacher à ce sol, à cette, à cette ville qui était trop précieuse, que beaucoup de gens voulaient avoir, beaucoup de gens, eh bien, ça a créé une espèce de chauvinisme, de fierté régionale. De fierté, et les gens sont très attachés à ça. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour conserver, beaucoup plus qu'ailleurs, cette partie de la vieille ville. Bon, maintenant, c'est nouveau, il y a effectivement des HLM, comme vous l'avez dit, mais la vieille ville est prisée, elle est amoureusement protégée.
Oui, oui, c'est vrai. Et c'est très bien, c'est une bonne chose.
Oui, c'est très, très beau.
Et on voit que les Byzantins sont fiers de l'être. Enfin, je vous dirais que je ne peux pas ressentir, évidemment, comme eux. Moi, j'ai vu un petit peu la grisaille de la ville. Enfin, bien sûr, j'ai vu les belles choses.
Oui.
Mais la grisaille m'a un peu surprise, un peu déçue, quand même. Oui,
mais ça, c'est... Vous savez, ce sont les latitudes qui sont différentes. Mais je ne sais pas si vous avez senti, au niveau de l'accueil, comment avez-vous ressenti l'accueil des Byzantins ?
Bon, un bon accueil.
Ils sont très chaleureux.
Oui, oui.
Très, très chaleureux à l'égard des étrangers. Et c'est une des rares villes, enfin en France, une des villes à forte immigration, parce qu'il y a des immigrés dans la région.
Énormément.
Où il se pose peu de problèmes.
On n'a pas l'impression qu'il y a des problèmes. Exactement. Je ne sais pas si les choses se passent la nuit ou se passent en vase clos, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de problème. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue.
C'est la même impression que j'ai ressentie à diverses reprises. J'ai dû passer 3 ou 4 fois, je pense, dans cette partie. Eh bien, c'est l'impression. J'ai l'impression qui ressort, c'est que les gens ne sont pas hostiles à l'égard de ces immigrés, quels qu'ils soient algériens ou autres. Ils ne sont pas tellement hostiles. Ils sont acceptés dans la région. Et la puissance syndicale, l'organisation syndicale est des plus fortes dans la région. D'ailleurs, on a parlé de cette autogestion au début. Mais effectivement, les ouvriers avaient décidé, à l'époque, au moment où il y a eu une espèce de faillite, enfin banqueroute de l'horlogerie, les ouvriers avaient décidé de prendre en main leur en charge leur avenir et créer cette autogestion. Et ils avaient inclus tout le monde, travailleurs immigrés, tout le monde y était.
Mais ça au même titre.
Au même titre, tout le monde y était. Oui. Tout le monde était associé.
Des vestiges à Besançon, les mêmes que l'on peut voir ici.
C'est-à-dire
des vestiges romains.
Oui, des vestiges romains, oui, ça a été une place forte romaine. C'était une place forte romaine, et vous savez que pas loin de Besançon, sur la plaine, il y a eu une très grande bataille gallo-romaine, une guerre, qui était très très importante, où César, enfin les armées de César, à la première tentative de conquête, la première conquête, avaient buté.
C'est Besançon qui les a...
Oui, la région, parce que c'était le lieu de passage. C'est la conquête de la Rome antique, la France. C'est faite par cette région de la Franche-Comté. C'est par là que les armées romaines étaient passées.
Ah oui, puis il y a des remparts aussi
oui,
à Besançon.
Et
oui,
quand les Romains se sont installés, ils ont fortifié la place, puis c'est un lieu de passage. Bon, ils ont assuré leurs arrières. C'est à partir de là qu'ils devaient contrôler. Et après les Romains, il y a eu d'autres. Il y en a eu d'autres.
Et puis, il y a aussi, enfin, il y a un musée où il y a une vaste collection de peintures européennes, et notamment oui. des dessins du XVIIIe siècle.
Oui.
Enfin, j'ai regardé ça. Disons que je ne connais pas la chose, mais j'ai regardé.
Il y a des trésors de la peinture, enfin, surtout l'époque romantique. L'époque romantique, c'est-à-dire le 19e, tout le 19e siècle, et le musée est assez riche.
Il est assez riche
en
toile. Il y a pas mal de choses venant de divers endroits d'Europe.
Oui, oui. Oui, Besançon, c'est un moment de peu s'enorgueillir de son musée, de beaucoup de choses. C'est une bonne ville, c'est une très bonne ville. Mais vous n'avez pas assisté à des cérémonies. Vous avez certainement pu assister au 14 juillet, puisque vous y étiez.
Oui, Enfin, il y avait un défilé et puis il y a un feu d'artifice.
Ah, vous n'avez pas vécu l'arrière 14 juillet. Vous savez que le 14 juillet, surtout dans cette région, bon, ce qu'on connaît du 14 juillet, ce sont les bals publics et les fameux défilés.
Ah bah oui, il y a eu des bals publics le soir. Enfin, les gens dansaient dans la rue. Surtout de...
Le 13 juillet.
La nuit du 13 au 14.
Du 14 juillet.
Et des orchestres composés, des orchestres musettes.
Oui, oui, le bal
musette.
Avec surtout
des accordéons.
Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est le bal musette. Oui, oui. Les gens vont guincher.
Oui, oui.
Mais vous savez, en plus de ces bals et en plus du défilé, il y a, on sait moins si vous voulez, la possibilité, le devoir même pour le conseil municipal des villes, surtout dans cette région, de distribuer ce jour-là, le 14 juillet, du vin et ou alors des vivres. Si vous voulez, ou alors même de convier la population à un pique-nique champêtre, comme ça, et gratuitement, donc tout le monde, entièrement gratuit. Vous savez, ça se fait pour certaines fêtes nationales dans d'autres pays. Regardez le 4 juillet aux États-Unis, qui est la fête nationale américaine, qui est la fête de l'indépendance. Eh bien, le 4 juillet, dans les provinces, enfin les grandes provinces américaines, chaque commune organise un goûter, une espèce de goûter champêtre, et toute la population est conviée, et c'est gratuit. Certains viennent, bien sûr, en amenant leur panier, donc, et c'est organisé, il y a une convivialité qui se fait automatiquement. Eh bien, en principe, le 14 juillet, c'était comme ça.
Alors, la manière de fêter, enfin, les fêtes, c'est le cas de le dire, change, parce que je n'ai pas vu de choses de ce genre.
Peut-être dans les grandes villes, moins, mais dans tout ce qu'on appelle, enfin, cette partie de la Bourgogne jurassienne, ou Jurane, la Bourgogne Jurane, comme on l'appelle, ça se fait dans les petites communes. Alors, il y a aussi des jeux organisés.
Ah ben, les jeux, oui.
Oui, pour le 14 juillet, avec des lots gratuits, donc
c'est
des
ça.
Lots qui sont offerts par la commune.
Oui, oui.
Alors, vous avez toutes sortes de
le
jeux.
Le mat cocagne.
Oui, le mat cocagne.
Il faut aller décrocher son lot
Exactement, tout à fait en haut.
Tout à fait en haut.
Généralement, bon, ce sont des victuailles. Et c'est fait. Vous savez, dans la Bourgogne Jurane, on continue à distribuer, jusqu'à présent, dans tous les environs donc, de Besançon, 1 kg de sucre et 1 litre de vin à chaque habitant. Hein? Bon, les gens, si vous voulez, le problème qui se pose, c'est de savoir qui est réellement habitant ou pas. Bon, mais même les gens de passage reçoivent ce lot. Et bien, pendant le jour du 14 juillet...
Alors, j'ai entendu dire, justement, à propos de ce lot, que maintenant, on choisit surtout les nécessiteux. Parce que
ça coûte trop cher,
voilà,
plus de monde.
Ça reviendrait trop cher. Alors il y a beaucoup trop de monde. Il y en a de plus en plus d'ailleurs.
Exactement. D'où.
Mais le colis est beaucoup plus important, disons.
Ah d'accord.
Beaucoup plus complet.
Oui. Eh bien, ça se fait. Ça se fait dans beaucoup d'endroits comme ça. On va parler des USA pour ce qui est de cette fête de l'indépendance, mais dans d'autres pays, notamment en Suède pour la fête nationale, dans les pays, beaucoup la Pologne, la Roumanie et tout. Un peu pour les fêtes aussi, vous avez des tas de dons qui sont faits comme ça par la commune, par les autorités locales qui accueillent justement toute la population et qui profitent de cette journée pour un peu prendre la température sociale, comment voir les choses. Alors on parle, bon, dans ces villages, dans les villages de la Bourgogne-Jura, on parle des problèmes, on parle des vaches, on parle de tout ce qui s'est passé, oui, la récolte, si la récolte est bonne ou pas, et surtout le vignoble, parce qu'il y a une partie de vignoble, surtout une espèce de vin blanc dans la région un peu plus haut.
Il y a énormément de victuailles, oui, il y a beaucoup de boissons.
Exactement, enfin, tout est donné. Et on organise aussi alors des jeux. On organise des jeux de qui, de tir.
La course en sac.
Oui, de la course en sac, justement. La course aux œufs. Hein, pour celui qui casse moins les œufs. Le casse-pot, ce qu'on appelle le casse-pot aussi, le jeu du casse-pot. Eh bien, vous savez, ou alors il y a le jeu de loi. Mais ce sont là des exemples très, très prisé, si vous voulez, d'origine carnavalesque.
Oui,
c'est pris sur
ça.
Le carnaval,
oui, oui.
Sur la fête du carnaval. Et est-ce qu'il y a aussi, alors là, une autre fête, mais ça n'est pas une autre fête caractéristique de la région, mais ça n'est, vous n'auriez pas pu y assister, c'est à Pâques, le samedi saint, la fête du samedi saint dans la région de Besançon, qui est une fête assez importante. Il y a un truc qui est assez amusant, les gens vont faire la quête des œufs. Les œufs de Pâques.
Ah, les œufs de Pâques, oui.
La quête des œufs. Et alors là, ce ne sont pas des œufs colorés, ce sont des œufs, à la limite, pour offrir, c'était les œufs qu'on offrait aux pèlerins. Les œufs à nourrir.
Aux
gens de passage. Alors ce sont les gens de passage, mais généralement ce sont des jeunes gens qui vont toquer aux portes pour faire cette quête. Donc. Et il y a aussi la coutume, dans la région, uniquement dans la région, pas d'ailleurs, la coutume des réveillons de Pâques. Alors qu'on ne réveillonne pas à Pâques ailleurs.
Non.
Et dans la région, peut-être pas Besançon, mais la région autour de toute cette partie de la Bourgogne-Jura, on réveillonne le samedi saint.
Alors réveiller veut dire manger à minuit.
Oui,
réveillonner, pardon.
Réveillonner.
Oui.
Réveillonner la fête, comme pour le réveillon de la Saint-Sylvestre ou le réveillon de Noël, qui là fêté partout. Mais dans cette région. Et il y a aussi d'autres fêtes. Vous avez quand même fêté un saint quelque part par là-bas.
Mais oui, mais c'était à une centaine de kilomètres de
Besançon.
Oui,
c'est la région.
Justement, c'était en allant à Vittel, qui est à peu près à 150 kilomètres de Besançon.
Oui.
Alors, on a rencontré une procession et on s'est arrêté, évidemment, du côté de Saint-Loup, Luxeuil-les-Bains, Saint-Loup. Et c'était une procession pour honorer un saint, le saint gardien de ce village. Et le saint s'appelait Saint-Roch.
Ah, d'accord. Vous savez que la fête à Saint-Roch, c'est le 16 août.
Ah bon, on l'honore peut-être plusieurs fois.
Ça dépend, oui. Ça doit être le saint patron du village. On devait l'honorer pour une cérémonie quelconque. Mais la fête de Saint-Roch, c'est le 16 août. Et Saint-Roch, il faut vous le rappeler, je pense qu'on vous l'a dit dans la région.
C'est protéger les habitants du dit village de la peste.
Oui, peut-être la région, mais c'est... Saint-Roch, effectivement, il est représenté, il est voué au soulagement des pestiférés.
Si en général.
Oui, sur le principe géographique, donc lié au saint, Saint-Roch est voué donc au soulagement des pestiférés. Et la légende raconte que pendant que le saint habitait le désert, un chien, son fidèle compagnon.
Ah oui, parce qu'il y a la statue de Saint-Roch.
Et son chien. Toujours son chien.
Oui.
Alors que le chien, c'est son fidèle compagnon. Eh bien, on dit que son chien lui rapportait tous les jours, en plein désert. Quel désert, personne ne le précise.
Oui, j'allais vous poser la question.
Oui, personne ne le précise. On ne sait pas si c'est. D'ailleurs, dans la région, il n'y a pas de désert.
Non, en Europe. Pas du tout.
Eh bien, on dit que Saint-Roch, dans le désert. Et Saint-Roch est natif de la région,
Alors il a dû s'isoler, s'exiler. Non,
fin du XIIIe siècle, XIVe. Peut-être qu'il a dû aller faire ce qu'on appelait à l'époque les croisades, les deuxièmes croisades, je n'en sais rien. Mais encore, ça chronologiquement, ça coïncide pas du tout. La légende rapporte que son chien lui rapportait tous les jours un pain qui était remis par une main inconnue et qui lui était bénéfique. Il était, c'était un saint très fêté. Il est très fêté dans cette région. C'est pratiquement le saint le plus fêté dans la région, en dehors des grands saints, si vous voulez, Saint Joseph, la Vierge et tout ça. Mais il est très fêté, il est très populaire. Il faut vous dire aussi que c'est le patron des paveurs et des carrières. Et dans la région, il y a beaucoup de carrières. Il y a beaucoup
de carrières.
Et les carriers, donc, sont ceux qui prennent la pierre, qui traitent la pierre des carrières. Et c'est leur saint patron.
D'ailleurs, il y a eu un temps, justement, dans cette région, beaucoup de tailleurs de pierre.
De pierre, oui.
Et qui taillaient les pierres tombales.
Les pierres tombales, et en même temps, parce que de tout temps, il y a une tradition, c'était une voie. Et ces voies étaient tous les jours pavées, tout le temps pavées et repavées, dès qu'il y avait des passages de troupes. Et le Saint-Roch était le saint patron de cette profession, des paveurs et des carrières. Mais Saint-Roch est très, très, très populaire. Il était tellement populaire, d'ailleurs, au musée de Besançon, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une toile de Tintoret, hein, qui le représente, le Tintoret. Et alors, il y a eu le Tintoret qui l'a peint, le guide, le peintre, le guide, Carache, Rubens. Et il y a une fameuse toile de Saint-Roch à Marseille aussi. Saint-Roch, justement, en train de soulager des pestiférés à Marseille. Donc, cette toile qui est peinte par David, David, qui était le peintre officiel de Napoléon Ier. C'est lui qui représente le Napoléon lors du sacre et tout ça. Eh bien, David a peint aussi Saint-Roch. Et vous avez aussi Cavazzolo, qui est un très grand peintre aussi du siècle dernier, italien, qui a peint Saint-Roch. C'était un saint non seulement apprécié, mais qui a trouvé, donc, si vous voulez, sur un plan iconographique, un retentissement très important.
Je ne l'imaginais pas aussi apprécié.
Ah, très apprécié. Ah oui, Saint-Roch, une des toiles de Cavazzolo est à Venise, représentant Saint-Roch. Et il n'est pas fêté en Italie. Saint-Roch n'existe pas en Italie.
Eh bien, justement, en ce qui concerne ce village, qui est un tout petit village, on le fêtait particulièrement, parce que vous venez de dire que Saint-Roch soulageait les pestiférés, mais là, il avait préservé le village de la peste. Bien. Alors, les villages aux alentours, à quelques kilomètres, la peste sévissait, mais dans ce village en question, petit village, eh bien, Saint-Roch a épargné les habitants de cette terrible maladie.
Oui.
Et même on lui met, le raisin n'est pas encore mûr à ce moment-là, mais on lui met aussi son bras des grappes de raisin vert.
Oui.
Et
oui.
Aussi, il y avait des corps de chasse réunis et la Saint-Hubert était jouée. Et justement, après, puisque nous nous sommes arrêtés et nous avons assisté à la cérémonie qui tirait à sa fin, alors là, le curé du village invitait les gens derrière la cure à une collation et il proposait et à manger et à boire, et la porte était ouverte à tous ceux qui voulaient bien la franchir. Et je vous dirais que nous avons franchi cette porte, nous.
Oui, c'est très bien. C'est d'ailleurs que le curé ait procédé à la chose, c'est là la vocation de l'Église, la vocation religieuse a priori, et qui se retrouve au moment des fêtes comme ça, surtout lors des fêtes de saints populaires.
C'est-à-dire qu'on oubliait la religion à ce moment-là.
Il n'y a pas de problème, au contraire.
Une grande camaraderie entre tous ceux qui festoyaient. Mais,
et tout le monde, les gens de passage sont invités, vous savez, vous êtes intégrés comme ça, vous ne sentez pas cette xénophobie qu'on peut retrouver ailleurs. Mais vous partiez sur Vittel, vous aviez un problème de santé ou bien...
Eh bien, on voulait déjà aller visiter Vittel. Enfin, Vittel est une ville comme les autres.
Oui, une ville d'eau.
Il n'y a pas grand-chose à visiter. C'est une ville d'eau.
Une ville, belle ville d'eau.
Une magnifique piscine.
Et une
piscine olympique.
Oui, mais la fontaine.
Il y a plusieurs petites fontaines.
Enfin, mais la plus importante dans la place, il y a une très très belle fontaine.
Ah
là.
Bon?
Oui, une fontaine en mosaïque.
Peut-être.
Oui, très très belle. Enfin, moi, elle m'a frappé, mais elle n'a rien d'historique ni de glorieux. Elle est très très belle. Elle est très très belle.
Ça veut dire, il y a des thermes.
Oui, beaucoup de thermes.
Et nous y sommes allés et nous avons fait comme tout le monde. Chacun se promène avec oui, son petit gobelet.
Son petit gobelet pour aller boire.
Oui, oui, qu'il va remplir.
Pour soigner.
Un petit robinet par-ci, par-là. Et pour soigner.
La goutte.
Voilà.
La gravelle.
Oui,
vous savez, la gravelle, vous savez ce que c'est, la gravelle?
C'est un genre de goutte.
Non, non, la gravelle, c'est une maladie, ça vient du mot gravier.
Ça me fait penser à gravier, oui.
Ça vient de gravier, effectivement. Ça vient de gravier, vous savez, c'est une maladie où les gens rejettent des espèces de particules, comme des petits graviers, par leurs voies urinaires, ou alors il y a des blocages rénaux avec ça.
C'est comme des calculs,
C'est comme des calculs, mais ça n'est pas des calculs, ça n'est pas les mêmes. C'est des petites pierres, carrément, des petites pierres. Et alors, ou aussi par, si vous voulez, les glandes au niveau des yeux. Les glandes lacrymales, ça fait comme des petits graviers.
Alors, on peut rejeter par les larmes ?
Par les larmes. Oui, c'est toutes les glandes uriques, en quelque sorte, les glandes lacrymales, qui rejettent ça. C'est ce qu'on appelle la maladie de la gravelle. Mmh. Et les eaux de Vittel sont réputées pour ça.
Je croyais que la gravelle était une maladie ancienne.
Existe toujours, ça existe toujours. Il y a des gens, vous savez, c'est lié au problème de l'eau que vous buvez, des eaux calcaires.
Trop calcaires.
Trop calcaires ou pas, et puis lié aussi à un phénomène d'alimentation. Mais il y a aussi, surtout, Vittel est connu pour le diabète, ça traite le diabète. Beaucoup de diabétiques vont à Vittel. Et alors, les problèmes dyspepsiques, enfin, tout ça.
Alors, nous avons bu de l'eau à tous les robinets. Enfin, je n'ai pas trouvé de différence entre les eaux.
Il faut faire semblant.
Et puis, alors là, nous sommes allés plusieurs fois à Vittel pour profiter de la grande et belle piscine.
Oui, puis c'est assez vert.
Ah bah c'est
les grandes
vert,
avenues, des platanes, des
Et puis il y a des courses. En été, il y a un casino, nous n'y sommes pas allés.
Comme toutes les villes d'eau.
Oui.
Toutes les villes d'eau ont leur casino.
Des courses de chevaux, quoi, je voulais dire. Alors il y a aussi Contrexéville, qui est à quelques kilomètres de Vittel.
Qui est aussi...
Alors on dit que ces eaux sont ionisées.
Oui, oui. Même Vittel. Hein.
Je suppose qu'elles possèdent des ions négatifs.
Je ne sais pas s'ils sont négatifs, mais en fait, effectivement, parce que c'est une région aussi à forte pression sismique.
C'est pour cela que les eaux aussi sont radioactives.
Radioactives, voilà. Et je pense, enfin je ne sais pas, une explication qui peut être donnée, c'est que les eaux, ces écoulements d'eau, c'est un immense réservoir d'eau, toute la région, les Vosges,
la verdure,
l'eau
partout,
surtout l'eau, vous savez, ce massif, c'est une immense, en quelque sorte, une immense bâche d'eau, une immense
tente.
Et c'est des eaux. Mais Contrexéville, c'est surtout aussi, Contrexéville est réputé pour le foie. Contrex.
Oui, lithiase biliaire.
Oui, lithiase biliaire, l'albumine, enfin tous les trucs.
Et puis aussi, en ce qui concerne tout le système urinaire, et la goutte aussi, et l'obésité aussi.
Bon, vous avez fait le circuit, alors.
Oui, mais Contrexéville est moins intéressant que Vittel.
Je comprends que vous soyez rayonnante maintenant. Vous avez été encuriste partout.
Oh, ça n'était pas encuriste, c'était simplement...
Oui, non, mais disons que vous avez fait le parcours du parfait curiste.
Oui, et puis on passe aussi par Épinal.
Épinal avec ses fameuses imageries.
Voilà.
Les images d'Épinal.
Et vous savez que je n'ai pas vu d'image particulièrement à Épinal. Hein. J'ai essayé de regarder, mais non, il y a des librairies comme partout.
Les images d'Épinal sont exportées partout, et surtout des images de bondieuserie, on appelle ça, des images de bondieuserie. Et savez-vous que les images d'Épinal, enfin ce qu'on appelle ces fameuses, vous savez, quand on dit ceci, c'est une image d'Épinal, ce qui veut dire c'est quelque chose d'établi, hein, quelque chose de simple, enfin de commun, de naïf. Mais figurez-vous que c'est cette imagerie un peu naïve, cette imagerie leur vient, tenez-vous bien, des Arabes, à travers l'Espagne médiévale.
Ah bon?
Oui, et ces images un peu, ces images d'Épinal sont un peu identiques à ces images qu'on trouve ici, qu'on trouvait dans le temps sur les places, ou qui vantaient les héros, enfin qui faisaient la géographie de l'islam, notamment ces saints. Ali, qui avec sa grosse épée pourfendait les démons.
Et, oui, il y avait c'est, toujours des héros.
C'est ça, avec et des images assez simplistes comme ça, où on voit bon aussi pratiquement un peu toutes les passions religieuses sont traduites par des images assez simples comme ça. Et ça vient de là. Ça vient de là. C'est pratiquement identique. C'est une des couleurs assez simples et vives. Effectivement, on ne les trouve pas dans les rues à Épinal. Ça ne court pas les rues, ces images. Mais elles sont exportées. Elles sont exportées vers d'autres endroits. Et surtout, les images d'Épinal sont à Lourdes. Mais Épinal aussi est une ancienne place forte. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
On ne le remarque pas. Non,
il y a justement contrebas d'Épinal. On retrouve des fortifications anciennes. Très, très, très anciennes. C'était aussi un lieu de passage. Enfin, c'est dans la lignée de Besançon.
Et puis alors, je terminerai par Nancy, qui est la capitale de la Lorraine.
De la Lorraine, c'est une très très belle ville. Ah, Nancy est une très belle ville. Là, surtout le centre de Nancy, place Stanislas, place Stanislas du 18e. Il y a aussi la place de la Carrière, qui est très très belle.
C'est l'ancien Nancy.
L'ancien Nancy, place de la Carrière qui est très très belle. Vous avez surtout et le magnifique palais ducal, je ne sais pas si vous l'avez visité, qui est du XVIe siècle.
Le palais ducal, je m'en souviens plus.
Ah, il est très très beau dans l'ancien Nancy, très très beau. Peut-être était-il parce qu'à un moment, il y a une partie qui était affaissée, peut-être.
C'était là qu'habitait le duc de Lorraine.
Oui.
Alors oui, je l'ai vu.
Très très beau. Et il est splendide.
Oui.
C'est, c'était le palais des ducs de Lorraine, palais ducal. Et il y a l'église des Cordeliers aussi. Qui est une très très belle église du 15e aussi, qui est du 15e siècle. Vous avez la cathédrale, qui est splendide, est vraiment splendide. C'est une cathédrale néo-gothique. Vous avez aussi une église gothique dans la vieille ville, qui était Saint-Épure. Je ne sais pas si vous connaissez. Mmh. Ah, très très beau. Non, Nancy est une très belle ville.
Ah, vous parliez de Charles le Téméraire tout à l'heure. Ben, il est mort à
Nancy. Il est mort à Nancy, Charles le Téméraire, effectivement. Et
alors vous parliez aussi de la place Stanislas, qui est vrai, et qui vient d'être rénovée. Certains parlent que de l'or aurait été mélangé à de la peinture. Enfin, je dis peinture, je ne sais
pas. Non, ce
exactement.
Sont des peintures à feuilles d'or.
Ah oui, c'est ça.
Oui, c'est la feuille d'or. C'est tous les éléments, les frises, enfin les éléments architecturaux de décoration, sont faits avec de la feuille d'or.
Voilà.
De la feuille d'or.
Mais c'est de l'or ?
De l'or, oui, c'est de la feuille d'or. De la feuille d'or qui est posée sur ces éléments d'architecture. Mmh. Ce n'est pas massif en or, mais c'est recouvert d'or. C'est de la feuille d'or, effectivement.
Et derrière,
beaucoup de villes comme ça le font.
Derrière cette place, on peut se promener. Il y a la pépinière. Oui. On appelle ça la pépinière. Il y a des fleurs.
Des fleurs, oui. Oui, il y a des fleuralies qui sont organisées. Souvent,
et puis, il y a les petits, comment dire, on ne peut pas dire un petit lac.
Des étangs.
Où il y a de beaux cygnes.
Oui, des étangs qui sont organisés par la commune. C'est des étangs aménagés.
Oui.
C'est très, très beau. Il y a des cygnes noirs.
Oui, c'est ça.
Surtout les cygnes noirs qui sont très, très beaux. Ils sont rares, vous savez, les cygnes noirs.
C'est rare.
Ah oui, c'est assez rare. Mmh. Très peu de villes possèdent des cygnes noirs. On trouve souvent des cygnes blancs, mais les cygnes noirs, c'est assez rare. Et il y en a un là.
Et la promenade très agréable. Oui. Il y a des petits ânes, des petits enfants, mon Dieu.
Vous savez, les ânes.
Il y en a partout.
Oui, il y en a partout, oui. Enfin, il ne faut pas rire. Et vous n'avez pas visité aussi une autre ville. Mais vous savez, Nancy, ce qu'on a oublié de dire, à Nancy, il y a la fameuse école de Nancy en médecine.
C'est une ville universitaire.
C'est une ville universitaire, mais l'école médicale, vous savez ce qu'on appelle l'école de Nancy, c'est l'école qui a fait pendant à la Salpêtrière.
C'est ce qu'on appelle, vous dites le collège de médecine, c'est ça ?
Oui, mais ce qu'on appelle quand on dit école de Nancy, c'est-à-dire la théorie.
Ah oui,
la
théorie. Faire partie de l'école de Nancy, oui. C'est cela. Oui,
d'une certaine manière, mais si vous voulez, l'enseignement qui était professé. Alors, parallèlement, si vous voulez, à l'instar de la Salpêtrière, l'école de Nancy, qui était syndicale, à la fin du siècle précédent, faisait des études sur la pathologie nerveuse, à l'époque, pathologie nerveuse, et surtout sur les problèmes de suggestion et d'hypnotisme.
Nancy ?
Ah oui, Nancy.
Ah, bon ?
C'est ça, l'école de Nancy.
Ah,
c'est les travaux sur l'hypnotisme, l'école de Nancy. L'hypnotisme et les problèmes de pathologie nerveuse, qui ont servi Freud.
C'est possible.
Ah oui, ils ont servi Freud aussi. Et pratiquement tous les grands psychiatres, tous les médecins qui ont traité de problèmes psychotiques, enfin de problèmes de pathologie nerveuse, connaissent l'école de Nancy. Elle est réputée. Donc c'est un monument dans ce qu'on appelle la médecine nerveuse. Très important. L'école de Nancy, c'est célèbre. Et il y a, bien sûr, une faculté de médecine qui est une des plus importantes de France.
Oui,
l'école de médecine est très importante.
Je crois Nancy, Besançon, Bordeaux, Paris, quelques...
Oui, il y a Montpellier aussi.
Oui, Nancy est une des plus célèbres.
On la cite, cette université.
Oui.
Et qu'avez-vous vu encore ?
Eh bien, à Place Stanislas, quand même, j'ai vu la statue de Stanislas Leszczynski.
Oui.
Et j'ai entendu parler d'une reine qui serait morte à Nancy. Et cette reine s'appellerait Opalinska. C'est la première fois que j'ai entendu.
Oui, une reine polonaise. Oui.
Il y a le tombeau de cette reine. Bon, eh bien, que dire encore de ce que j'ai vu ?
Vous avez pratiquement
pas grand-chose,
comme
vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de cours d'eau. Il y a aussi le canal de la Marne au Rhin.
Oui.
Et
il y a d'ailleurs un édifice qui marque ce canal, un édifice de pierre sculptée qui est très très joli sur le canal au départ. Je crois qu'il y avait les niveaux d'eau qui étaient marqués à un moment donné. Je ne sais pas, c'est marqué. C'est juste au début du canal.
Je n'ai pas remarqué.
Ah, d'accord.
Alors,
vous êtes allé où c'est tout ce que vous avez fait comme ville dans la région ?
C'est-à-dire qu'on a vu énormément de petits villages, plus ou moins. On a vu des petits châteaux en passant comme ça.
Oui.
Mais on remarquait beaucoup de verdure, beaucoup de cours d'eau.
Des châteaux, oui. Surtout les ducs de Lorraine, ils ont édifié pas mal de résidences.
Oui, mais on n'avait quand même pas le temps de s'arrêter partout. On a remarqué qu'il y avait énormément d'élevage, ce que l'on appelle les prés, où les bêtes peuvent se nourrir et donner du lait. Il y a beaucoup de lait dans cette région.
D'ailleurs, à propos, je fais un petit retour en arrière à propos de prés. J'ai oublié de vous parler de la Moulière. La Bouillère, qui est un des faubourgs de Besançon, quand on a parlé de Besançon, mmh. et qui est aussi un endroit de cure à Besançon même.
Ah bon?
Oui, donc, mmh. et la Mouillère vient de mouiller, donc mouiller, c'est la partie humide. Pourquoi je fais cette parenthèse? C'est parce que c'est la partie humide d'un pré où les vaches, que les vaches évitent, ou alors elles vont pour mâchonner cette herbe mouillée, mmh. pour avoir de l'eau. Ça s'appelle la Mouillère. Et c'est la Mouillère, c'est donc cette partie humide du pré ou du champ. Et à Besançon, c'est l'endroit où il y a une source. C'est dans les faubourgs. Mmh. Et c'est l'endroit d'eau.
Il y a beaucoup de bêtes à cornes dans oui. toute la région. Bon, on voit beaucoup moins de chevaux. On n'en voit pratiquement pas parce que on voit les, comment on appelle ça, les machines agricoles motorisées.
Oui, hein. oui. Oh, oui, mais non,
maintenant,
surtout.
Maintenant, ça n'est plus le même genre de... de culture. Et puis, ce qui est bizarre aussi, c'est que l'on voit dans certaines régions, ou plutôt dans certains endroits, parce que les distances, enfin, les différences ne sont pas sur de longues distances, c'est que il y a de grandes étendues ou de terre ou d'herbe, et en d'autres endroits, le terrain est très morcelé. Alors, j'ai demandé la raison et on m'a dit parce que en certains endroits où les étendues sont grandes, c'est qu'il y a eu un remembrement et où le terrain, où les terrains sont très morcelés, c'est où le remembrement n'a pas eu lieu parce que oui. les terrains sont pauvres, beaucoup
oui.
plus pauvres. Mais de toute façon, ce remembrement en question doit se faire parce qu'on n'accepte plus ces petits jardinets accolés les uns aux autres. Enfin, on se renseigne un petit peu.
Mais c'est très joli, ça fait une belle aquarelle, tous ces petits jardinets.
C'est beaucoup plus intéressant oui. que les grandes étendues,
les
mais
grandes étendues.
C'est certainement moins rentable.
Oui. Et qu'avez-vous vu comme autre ville dans la région?
Ben, c'est tout.
C'est tout? C'est vous n'êtes pas allé à Verdun?
Ah oui, bon, j'ai vu Verdun, bien sûr, j'ai vu Verdun.
Fameuse Verdun.
J'y tenais d'ailleurs, je tenais à voir Verdun. Et ben, nous avons vu, c'est-à-dire que Verdun est une ville
historique.
Des plus tristes. Enfin, la ville en elle-même. D'ailleurs, le jour où
c'est
nous
normal.
Y sommes allés, il pleuvait. Et nous sommes allés voir l'endroit, nous sommes allés où la bataille a eu lieu durant, je ne sais, peut-être une année où l'on avançait de 20 kilomètres et
oui.
où on reculait d'autant, où il y a eu un million
La bataille de la Marne.
Où il y a eu un million de morts à la baïonnette.
Oui, oui, c'est la bataille de la Marne en 14-18.
Enfin, je ne sais pas si un million pour un côté ou un million pour les deux. Enfin,
oh non, il y a eu un million pour les deux, mais c'était pendant cette période 14-18. À chaque fois, donc, on prenait, comme vous avez dit, chaque jour, et on avançait de quelques kilomètres. C'était une victoire.
Oui,
ça
oui.
se faisait au prix de beaucoup de morts, et puis le lendemain, ça revenait, tout ça. Et pratiquement, la guerre s'est figée dans cet endroit, entre 14 et 18, pour la région. Les gens n'ont pas évolué.
Et il y a justement l'endroit de la tranchée, parce qu'on creusait
oui,
des tranchées.
Oui.
C'était de
c'est les guerres de tranchées.
Tranchée.
C'est les guerres de tranchées, la guerre de 14-18.
Il y a l'endroit de la tranchée la plus terrible où, paraît-il, les soldats sont toujours sous terre avec leurs baïonnettes qui dépassent.
Oui,
d'ailleurs, la terre ressemble à du sable maintenant, certainement, parce qu'on a voulu l'entretenir. On n'a pas laissé pousser l'herbe. Alors, on voit les pointes
des baïonnettes
qui dépassent.
Oui, justement, on n'a pas voulu, parce qu'il y a des gens qui étaient décomposés avec les bombardements. Mmh. Et c'est une ville martyre, c'est une ville qui a été, pendant cette guerre 14-18, aux trois quarts détruite. Vraiment,
oui,
elle a
oui,
été reconstituée. Mais il n'y a pas eu, c'est l'endroit où les guerres franco-allemandes se sont le plus figées, le plus fixées. C'est l'endroit où les Français et les Allemands se sont accrochés le plus. Pour 14-18. Pour la Deuxième Guerre mondiale, non. Mais surtout de 1870, la guerre de 70-71, là aussi, il y avait eu une très grande bataille qui a duré plusieurs des mois. Enfin, elle a duré plus d'un an même. Plus d'un an. Il y a eu aussi autant de morts. C'est la guerre franco-allemande de 1870-71. Et puis 14-18, ils se sont encore accrochés là.
Ah, oui.
Et même avant, si vous voulez, avant qu'il y ait la guerre franco-allemande, des guerres, c'était... Parce que c'est toute cette région passée indifféremment, tantôt aux Allemands, aux Germains, à l'époque, tantôt. Mais c'est une ville historique, le site est historique. À part la cathédrale du 12e, hein, qui est une très vieille cathédrale, et qui est interdite, je crois, à la visite, parce qu'elle s'écroule de partout.
Alors, c'est-à-dire que Verdun, nous n'avons pas vu Verdun,
nous n'avons vu que
l'endroit de la bataille, nous avons vu l'ossuaire de Douaumont, où on a gardé les os des hommes, enfin les os que l'on avait pu récupérer.
Exactement.
Eh ben, qu'est-ce que l'on voit? Disons qu'il y a des vitres, et on regarde de l'extérieur, et que voit-on derrière les vitres? On voit des os.
Des os, oui. Non, oui. Mais si vous voulez, Verdun, à part ce site, enfin cette partie de la guerre, il n'y a pratiquement rien. Mais c'est une ville historique, il faut le rappeler. C'est la ville qui a, à un moment donné, c'est-à-dire au 9e siècle, en 1843, je ne sais pas exactement, c'est dans ce site, enfin dans le site de Verdun, dans la ville de Verdun, que les enfants de Louis le Pieux, hein, qui était un roi carolingien, c'est les enfants de Louis le Pieux qui ont divisé, qui ont partagé l'empire carolingien. C'est dans cette ville que l'empire carolingien a éclaté et qu'il n'y a plus eu de grand empire carolingien.
C'est à Verdun.
Les trois enfants, donc les trois fils de Louis le Pieux, ont fait ça. Mais bon, il n'y a rien qui traduise ce passé, si ce n'est la cathédrale qui est du 12e, mais il n'y a rien. C'est une ville historique qui est surtout marquée par les guerres. Et il y a aussi ce qu'on appelle les Vierges de Verdun. Vous n'avez pas entendu parler de ça?
Non.
Ah, les Vierges de Verdun, c'est connu. C'est l'expression par laquelle on désigne les femmes qui pour avoir accueilli et fêté les Prussiens, les envahisseurs prussiens.
Mais elles n'étaient pas prussiennes.
Non, elles étaient françaises.
Ah ben oui. Alors elles les ont accueillies.
Elles étaient contentes de l'arrivée des Prussiens. Donc c'était à la limite ce qu'on peut appeler déjà à l'époque, ce qu'on aurait pu appeler les collabos, les collaboratrices. Eh bien, elles furent condamnées à mort par le tribunal révolutionnaire, la Révolution française donc, le tribunal révolutionnaire de la Meuse, puisque c'est la Meuse, en 1794, je crois, 5 ans après, donc la Révolution, c'était la Révolution française, en 1794, et je crois que ça s'est fait en Brumaire. Et donc ces femmes avaient été condamnées par le tribunal révolutionnaire, et à mort, elles ont été exécutées le lendemain, sauf deux d'entre elles, qui étaient les deux plus jeunes.
Ah bon, les deux plus jeunes. Mais toutes... celles-là, les deux plus jeunes, les vierges de Verdun.
Non, mais toutes les femmes étaient désignées comme ça.
Ah bon.
C'est une appellation ironique. Quand on dit,
d'accord.
Vous savez, dans la région, c'est un sous-entendu.
Oui, oui.
Quand on dit, tiens, voilà une vierge de Verdun.
Ah, bon.
Voilà, alors ça veut dire autre chose. Et qu'avez-vous vu encore?
Eh bien, à Verdun, j'ai vu le cimetière, les cimetières, puisqu'il y a les cimetières,
le cimetière. Ça,
c'est
mort,
diverses nations.
C'est vraiment mort.
Mais enfin, j'ai voulu quand même voir particulièrement le cimetière musulman. Oui. Pourquoi musulman?
Oui,
on l'appelle comme ça,
parce que
les tombes sont tournées du côté de l'Est.
Oui, et puis il n'y a pas de croix.
Oui, il n'y a pas de croix, c'est ça, et les tombes sont tournées
Vers la Mecque. Ce sont les Algériens, enfin les Nord-Africains, qui ont participé à la guerre de 14-18.
Algériens particulièrement, je crois.
Beaucoup, qui étaient dans les rangs de l'armée française, 14-18, et il y en a eu beaucoup qui sont morts, et enterrés là-bas. Mais vous savez, tout le site de Verdun est triste, hein. Il y a rien à voir à part ça. Et puis même ça n'est pas à voir si l'on affecte un petit coup macabre. Enfin, je ne sais pas. Vous êtes allé à Vesoul?
Ah, je suis allé à Vesoul, oui. Parce
comme
que
Brel l'a chanté.
Brel a chanté Vesoul. Eh bien, je crois qu'il a chanté Vesoul justement parce que Vesoul est une ville anonyme.
Il n'y a rien.
Qui distingue cette ville d'une autre
D'ailleurs,
ville.
C'est ironique dans la chanson de Brel.
Oui, je crois que c'est cela.
C'est très ironique, il n'y a rien.
Oui.
Vesoul, c'est comme le clair de lune à Maubeuge.
Alors,
c'est pareil. Vous savez, on parle du fameux clair de lune à Maubeuge. Il n'y a rien à Maubeuge. Il n'y a pas plus de clair de lune. Il n'est pas particulier à Maubeuge. Pas plus à Maubeuge qu'ailleurs.
Oui, Vesoul n'a absolument rien de particulier.
Rien.
D'ailleurs, nous sommes passés à Vesoul, nous ne sommes pas arrêtés à Vesoul.
C'est très ironique, oui, dans la chanson. Enfin, c'est comme ça. Et vous êtes allé, donc, pour essayer de comprendre.
Oui, pour essayer de comprendre. Alors, nous avons compris que, justement, cela...
C'était ironique.
Eh bien, on est toujours content de partir en vacances, vous savez, mais on est très heureux de rentrer chez soi.
Ah oui, bien sûr. Mais c'était assez riche comme voyage. Vous êtes quand même assez documenté.
Sur un rayon de 200 km, comme je vous disais tout à l'heure. Mais enfin, le mois s'est passé de cette façon.
Ça vous a été profitable
pour... Eh bien oui, c'est-à-dire que le climat donne de l'appétit parce que comme il ne fait pas chaud.
Puis donc, vous avez fait des cures aussi.
Oui.
Enfin, toutes sortes de cures.
Ah ben nous avons bu.
Vous avez bu et vous avez bien mangé.
Les différentes eaux et puis on a bien mangé.
Vous êtes reposé, une cure de
reposé surtout. Hein.
Cure gastronomique, on mange bien d'ailleurs dans la région.
Cure gastronomique, enfin peut-être pas au vrai sens du terme, mais nous avons bien mangé. Mmh. Et puis voilà.
Eh bien là, ce sont des sentiers du monde pas habituels. Enfin, ce sont qui sortent de.
Mais et c'est très au bien, fait, oui. Vos vacances.
Eh bien, moi, mes vacances, je vais vous étonner. Je voyage tellement dans l'année, je cours tout le temps, que lorsque j'ai quelques jours de repos, vous savez à quoi je les passe ? Eh bien, je m'immobilise tellement et je me repose ainsi.
Oui, mais
et
il est vrai que... C'est-à-dire oui, que vous,
Je suis parti souvent.
De nombreuses fois dans l'année, alors... Oui.
Non, là, moi, j'ai apprécié mon balcon. Ouais, de mon balcon, j'ai un peu entretenu des plantes dans un balcon, je me suis reposé ainsi.
Eh bien, nous allons nous dire bonsoir.
Bonsoir et bonsoir ainsi, à nos chers auditeurs.
Ainsi qu'à nos auditeurs, oui, et en leur disant à la semaine prochaine. Merci.
Merci à vous.
Et merci aussi à nos auditeurs de nous avoir prêté attention. Et nous vous souhaitons une très bonne nuit, une très bonne semaine.
Au revoir.
Au revoir.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutronc et on a vu Dutronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer Dutronc, on a quitté Dutronc. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe. Je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. Chauffe, chauffe, chauffe. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours. Chauffez les gars. Mais je te le redis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutronc et on a vu Dutronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle. Regarde ça, la sœur, j'ai vu les fleurs du...